Ouellet.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio. X.
13h02 minutes. Ça brasse chez nous, ça brasse ailleurs et c'est la raison pour laquelle chaque semaine on jase avec notre chroniqueur Benjamin Tremblay, oui, du site et de la page 7 jours sur Terre. Recherchez ça, entre autres sur YouTube. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de stock. Et même, j'ai réalisé, parce que je traîne de temps en temps, oui, coupable, je traîne sur le site de 7 jours sur Terre de temps en temps, même des affaires qui datent de 2, 3, 4 ans, encore très pertinentes. Tu sais, quand Benjamin nous explique juste la situation géopolitique d'un pays, même si ça a été fait il y a 2 ans, sauter là-dedans 2 pieds, c'est toujours vraiment très intéressant. Puis il est là, je vais arrêter de parler comme s'il n'était pas là. Salut Benjamin, comment ça va?
Salut JC, merci de me recevoir.
Fait plaisir. Hey, puis juste avant de tomber dans notre sujet du jour, on va se faire un petit bloc latino aujourd'hui. Juste avant de tomber là-dedans, tantôt je t'ai envoyé une vidéo en cherchant des sujets, on jasait, tu sais, puis tu me dis, ouais, ça, c'est juste que c'est pas moi. Je dis, ben, ça, on dirait, mais c'est... là, tu m'as dit, non, il y a un site qui copie ma voix, c'est de l'intelligence. Explique-moi ça, parce que une des craintes que j'ai d'ici 5 ans. Moi, j'ai vu des vidéos de Donald Trump fakées de A à Z par l'intelligence artificielle. Et si t'as pas le réflexe d'aller contre-vérifier, checker vraiment comme il faut si ça a été dit, si ça a été prononcé, tu te fais rouler dans la farine. D'ici 5 ans, ça va être à un moment donné difficile là, de différencier qui est qui et qui a dit ça et qui l'a pas dit.
Oui.
Parce que ton site, je veux pas le nommer, puis on le nommera pas, mais c'est de la fraude, là.
Ah oui, c'est totalement de la fraude. Puis en fait, j'avais fait une vidéo là-dessus, une courte vidéo. Puis la première fois que j'avais découvert ça, j'avais été flabbergasté. C'est quelqu'un m'envoie un courriel en me droppant le nom de la chaîne, en me disant « Hey, c'est-tu toi? Je suis pas mal sûr que tu as vu. C'est pas vrai cette nouvelle-là, premièrement. Puis je pense qu'il utilise ta voix. » Fait que là, je m'en vais voir sur YouTube, puis un peu à temps perdu, puis immédiatement, j'entends ma voix. Là, je suis comme, mais voyons, quand est-ce que j'ai enregistré ça?
Ben oui, tu te questionnes toi-même. Là,
ouais, puis ma voix est juste un peu off, tu sais, assez pour que moi, je m'en rende compte, c'est la mienne. Puis là, je lis les commentaires, puis c'est plein de monde qui me répondent, qui font comme, hey, salut Benjamin. Puis en fait, c'est la nouvelle qu'on m'a fait dire, dans le fond, par cette fabrication-là, sur cette chaîne-là, on est en train de me faire lire une fausse nouvelle au nom de l'Iran. Une nouvelle qui disait essentiellement là, qu'Israël avait caché des bombardements, puis dans le fond, Israël était essentiellement effacé de la carte, là, que l'Iran avait tout détruit, puis là, il me faisait dire des espèces d'énormités de même par-dessus des images générées par intelligence artificielle. Et là, écoute, la séquence, quand tu la regardes d'un seul bout, ça a l'air d'une chaîne de nouvelles, ça a l'air d'être un animateur de nouvelles qui te lit quelque chose.
Ouais, c'est incroyable.
C'est pour ça qu'ils ont pris... Moi, c'est ça, c'était pas ma voix comme un... on a pris des bouts de ce que j'ai dit, puis on l'a rabouté.
Non,
c'est
non.
Vraiment que, manifestement, on l'a utilisé comme un modèle pour entraîner une intelligence artificielle. Puis si tu vas sur cette chaîne-là, écoute, mon gars, là, c'est du slop total. Ils te publient à peu près 25-30 vidéos par jour. Ils en ont déjà des dizaines de milliers. Puis, écoute, c'est tout sur l'actualité. Puis c'est tout le temps genre, la Russie est gentille, l'Iran va gagner,
ouais.
La Corée du Nord est hot. Et là, je m'étais mis à m'informer un peu sur cette chaîne-là. Elle me disait, mais d'où ça vient? C'est quoi cette histoire-là? Puis, manifestement, il y avait un gros intérêt pour l'Iran. Et là, je me mets à fouiller un peu. Effectivement, c'est une chaîne qui avait été enregistrée. Écoute, une entreprise, le gars se vantait de ça. C'était carrément une entreprise de fausses nouvelles AI qui générait des visionnements.
Puis eux autres, ils se défendent ça en disant c'est du divertissement.
Oui, ben lui était basé au Kosovo. Moi, je me demande c'était quoi les intérêts derrière ça. Puis l'entreprise était basée au Kosovo. Les gens qui étaient derrière ça, c'était des Iraniens. Fait que la question, c'est de savoir tout le temps, bon, tu sais, qu'est-ce qui est de la propagande, qu'est-ce qui ressort juste du public qui s'amuse puis qui veut juste farmer des views, tu sais. Mais manifestement, là, ce que tu disais d'entrée de jeu en disant, là, d'ici 5 ans, on va se retrouver, on a de la misère à le voir. JC, moi, le monde me répondait, là,
ben oui.
Comme si c'était moi. Puis là, il me disait, puis vas-tu changer ton reportage, espèce de menteur?
Ben oui, non, mais parce que ça affecte, premièrement, au premier niveau, là, notre compréhension du monde. T'sais, c'est sûr que si on se fait attaquer, puis on s'attache à des gens. Moi, je considère que quand j'écoute 7 jours sur Terre, je sais que tu as des recherchistes, je sais que tu es sérieux, je sais que tu veux donner à peu près les deux côtés de la médaille, je sais que tu vas aller donner de l'information pertinente, vérifier. Mais si quelqu'un me parle en ton nom avec ta voix, ben ça se peut que je dise « Ah ouais, mais ben, si Benjamin dit ça, c'est parce qu'il doit avoir trouvé quelque chose. » Évidemment qu'il y en a qui ont des réflexes là, d'aller contre-vérifier puis rechercher, mais c'est pas tout le monde. Et moi, là, la vidéo que je t'ai envoyée, parce que là, un matin, on cherchait vite, là, pis, moi, c'est Google qui m'a envoyé ça, là.
Mm-hmm.
Tu sais, ah ça, oui, non, c'est une autre affaire, c'est que là, c'est partagé par plein d'autres sites, plein d'affaires qu'on considère comme crédibles.
Tantôt, quand tu m'as envoyé ça, ça avait été fait le jour même, puis c'était à peu près à 32 000 visionnements. Ouais. Tu sais, moi, je suis dans YouTube, je peux te le dire, là, avec ça, ils vont faire à peu près un 300 à 500 piastres. Wow. Maintenant, fais ça 20 fois par jour. Écoute, mon homme, c'est une machine à imprimer de l'argent. Fait que tu rajoutes à ça la dimension que c'est de la propagande, effectivement, mais maintenant, tu as un moyen de monétiser ta propagande d'une certaine manière. Fait que alors, on rentre dans une époque vraiment étrange. Puis c'est de ça que je parlais. Moi, quand j'avais découvert ça, ce qui me frappait, c'était de dire, ouais, là, ils n'ont pas ma face. Dans un an, ils vont avoir ma face. Et, écoute, c'est même pas une question de capacité technique. C'est vraiment juste une question d'investissement. Puis qu'est-ce que ça leur tentait de mettre comme ressource. Mais on est déjà en mesure de créer des segments vidéo presque impossibles à distinguer. Là.
Et on est malheureusement dans une étape où il est bien trop tard pour commencer à regarder ça. Mais moi, il y a 5, 8 ans, je disais, l'intelligence artificielle, va falloir encadrer ça. Je suis désolé, je suis pas quelqu'un qui tripe sur les règlements, mais on va l'échapper. Et on a laissé aller tout ça. Donc, ça va être bonne chance pour le futur. Ça va être peut-être que les humains devront commencer à s'entraîner à aiguiser leur jugement et leur réflexe de doute. Mais ça, je suis pas certain là, que ça va pouvoir se faire de façon relativement facile.
Là. Puis là, c'est que tu rentres dans la logique de la compétition en plus avec la Chine. Là. C'est ça qui rend ça un peu inévitable. Ben oui. Ça devient presque déprimant. C'est que beaucoup de notre rationnel sur pourquoi on doit pas trop limiter le développement, pourquoi il faut absolument qu'on laisse notre Silicon Valley puis nos ingénieurs puis nos chercheurs défoncer toutes les portes, quitte à faire des erreurs puis causer des perturbations des fois, on se dit, ben si c'est pas nous autres qui arrivent en premier, c'est la Chine. Ou c'est la Russie, ou c'est un acteur opposé. Puis là, ben écoute, qui arrive à la singularité en premier, à l'intelligence générale, c'est essentiellement les clés pour la domination. Fait qu'on a un peu une rationnelle de compétition qui devient, il faut le dire comme ça, là, ça devient un aspect d'inévitabilité là-dedans, un peu comme si c'était déjà écrit d'avance. On le sait comment ça va se passer, on le sait où ça va finir, puis on est comme un peu programmé là-dedans comme des somnambules. C'est l'impuissance, moi, là-dedans qui me frustre, là.
Là, étant donné que je suis pas mal convaincu que j'ai le vrai Benjamin Tremblay, on va quand même faire un sujet ensemble, là. à moins que je me fasse avoir présentement. Et ça, non, mais tu ris, mais là, je fais une blague. Mais dans 5 ans...
Je pourrais programmer mes segments.
Dans 5 ans...
Il y a plein de monde qui me dit ça, JC. Excuse, il y a plein de monde qui me disent tout le temps que j'existe pas puis que je suis une intelligence artificielle. Je suis très sérieux, c'est genre c'est une conspiration.
Es-tu capable de dormir le soir? Ça doit être mêlant. Là. Moi, je commencerai à douter de moi-même. Non, mais pour vrai, c'est parce que dans 5 ans, on n'a pas idée à quel point ça avance vite. Dans 5 ans, ce ne sera pas comme un avancé comme il y a 5 ans. Dans 5 ans, on va être vraiment ailleurs. Et peut-être que les intelligences artificielles pourront même jaser avec nous comme si de rien n'était, réagir à ce qu'on dit, trouver notre joke bonne, vraiment habiter le personnage. Et ce jour-là, on va être perdu, puis pas à peu près, et ça va probablement venir plus vite qu'on pense. Mais trêve d'alarmisme, jasons un peu de notre sujet, parce que je viens de voir que ce qui devait être une courte intro vient de se transformer en 10 minutes.
tu sais comment je suis.
Ben oui, puis je suis un peu pareil. Mais tout ça pour dire un petit suivi peut-être sur un sujet que tu as abordé, je crois, il y a 2 semaines avec nous, l'histoire des bateaux américains qui se sont stationnés autour du Venezuela pour, selon l'administration américaine, contrer une opération anti-drogue. Donc, ils disent qu'ils ont intercepté un bateau à ce temps-là, mais il y avait quand même beaucoup d'effectifs militaires là, pour un bateau, somme toute, assez banal, rempli de drogue. D'ailleurs, on n'a jamais vu la drogue. Je n'ai pas vu d'image de paquet de drogue. Mais c'est les prétentions du gouvernement américain. Et là, ça s'est aggravé. Il y a 2 autres bateaux qui ont été interceptés, je pense que c'est la semaine dernière. Et là, il y a des exercices militaires au Venezuela. Je veux pas être alarmiste, je te laisse aller. Est-ce qu'on s'inquiète de ce coin-là? Il me semble qu'on parle beaucoup d'Israël, beaucoup de la Russie. Est-ce qu'on doit commencer à regarder en Amérique du Sud?
Ben, honnêtement, moi, je trouve encore qu'on est dans, disons, dans le terrain de la gesticulation. Puis clairement, Trump essaie juste de pousser Maduro dans un coin. Puis ils vont essayer d'extraire quelque chose de tout ça. Moi, c'est ma théorie, là. Manifestement, on est prêt à faire des deals avec Maduro. C'est pas vrai qu'on veut absolument s'en débarrasser à tout prix, mais lui faire miroiter la possibilité de, que c'est ouais. parfois suffisant pour extraire quelque chose. Et le quelque chose, ben là, on voit que les États-Unis ont recommencé récemment là, à extraire du pétrole à partir du Venezuela. Chevron, notamment, qui est actif au nom des États-Unis là, dans le bassin pétrolier du Venezuela. Et ils ont une bizarre d'entente là, dans laquelle ils n'ont comme pas le droit de payer le gouvernement à cause des sanctions, mais en théorie, ils sont obligés de compenser. Fait que t'as tous des arrangements étranges dans ce coin-là. Peut-être que les États-Unis essaient de régulariser ça, de dire « Regarde, donne-nous un accès total, on va lever des sanctions sur un certain nombre de conditions, puis ça devient une négociation un peu en coulisses. J'ai de la difficulté à croire qu'on est vraiment en train de faire de l'interdiction de drogue, parce que si c'est ça, cet argent-là, ces ressources-là sont beaucoup mieux investies autrement sur la frontière américaine ou même en amont, comme ils veulent le faire là, va travailler avec la Colombie. Les Américains ont des relations préexistantes avec la Colombie qui datent de décennies de la lutte au cartel. Fait que tu sais, c'est un peu fantasme de penser que les États-Unis sont juste inquiets de l'introduction de la drogue à partir des cartels du Venezuela. Il y a clairement quelque chose de politique là-dedans. Clairement, on a des intentions secondaires. Au départ, on nous faisait peut-être miroiter la possibilité d'une invasion. On faisait du standing. En ce moment, je dirais qu'on est vraiment plus dans la gesticulation. Trump semble être en train d'essayer de négocier avec Maduro et je ne sais pas ce qu'il veut extraire. Comme je t'ai dit, peut-être des concessions pétrolières.
Ouais,
peut-être qu'on veut les éloigner de la Russie. Peut-être qu'on est prêt à l'envoyer en exil aussi. Ça fait partie du genre de négociation qu'on propose parfois. À dire, garde, va-t'en en Russie, va-t'en en Syrie, va-t'en peu importe où ce que ça te plaît, puis va-t'en en Chine, puis nous, ben, on va installer quelqu'un d'autre à la tête du pays. En échange, il n'y aura pas de procès, il n'y aura pas de... On courra pas après tes assets, on va te laisser tes maisons à Miami, puis etc. Là.
Parce que les États-Unis ont quand même mis la tête à prix de Nicolas Maduro à 50 millions de dollars américains. Je comprends que ça peut être
problématique.
Aussi, ça reste de la gesticulation, comme tu dis, mais quand on
commence
à mettre...
C'est problématique parce que... Tu sais, mettons, on parlait ensemble à un moment donné là, de la Cour pénale internationale qui avait imposé un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Puis on est comme, c'est-tu utile? Ça change quelque chose? Ça change rien. Je dirais une prime de 50 millions de dollars US, honorable par les États le département de la justice des États-Unis, ça a plus de puissance puis de portée pas mal qu'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Parce que là, tu peux juste avoir 3-4 ticailles qui décident de se mettre ensemble, comme il est déjà arrivé au Venezuela. Là.
Oui.
Tu avais 4-5 gars qui ont décidé d'essayer de débarquer. On n'a jamais trop su le fond de l'histoire. Mais là, ils pourraient décider d'aller chercher n'importe où. S'ils se cachent en Autriche, s'ils se cachent en Chine, peu importe. Pour 50 millions de dollars, crois-moi que tu aurais une couple de teams qui réfléchiraient à l'idée. Là.
C'est clair. Et autre sujet, puis là, on a vraiment plus beaucoup de temps, mais je veux quand même t'entendre sur l'histoire de Bolsonaro, l'ancien président brésilien, ouais. qui a été évidemment accusé de corruption, qui est reconnu coupable, by the way, et qui vient de se faire donner une sentence. Moi, j'ai pas vu ça souvent quand même. Là. Ben oui, là, dans certains pays un peu louches. Le Brésil, on considérait quand même que c'était un pays qui avait quitté un peu l'émergence, qui était devenu une espèce de puissance, au moins en Amérique du Sud. Mais 27 ans de prison pour l'ancien président, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ça?
Ben, écoute, premièrement, tu le mentionnes un peu, là, c'est un pays qui sort aussi d'une période d'instabilité politique. La démocratie là, brésilienne est relativement jeune, si on veut l'avoir dans sa constitution récente, puis c'est arrivé très, très souvent des coups d'État dans l'histoire du Brésil. La plupart du temps, bon, les gens s'en sortent, puis ça finit par à peu près juste mourir comme ça, et le pays continue. Maintenant, là, ce qui vient de se produire, c'est que Lula da Silva, qui est le président actuel, c'est une histoire spectaculaire, là, mais qui a été président par le passé,
ouais.
qui a été accusé, jeté en prison aussi, qui a fini par en sortir. Et là, Bolsonaro est président pendant une bonne période de ce temps-là. Et lorsque Bolsonaro perd l'élection, contre qui? Contre Lula da Silva, justement, l'ancien président. On a des allégations comme quoi, en fait, qui ont été démontrées, on peut maintenant le dire, là, par la Cour suprême brésilienne, comme quoi Bolsonaro aurait essayé de s'accrocher au pouvoir à travers une espèce de complot avec son ministre de la Défense, ouais. avec les services de renseignement, un complot qui allait assez loin, là, qui allait jusqu'à l'assassinat, notamment, de Lula da Silva, qui allait jusqu'à l'assassinat de juges de la Cour suprême, suspension des institutions, instauration d'un état d'urgence. T'avais vraiment la suspension des résultats des élections. C'était vraiment une espèce de plan, on peut le dire, là, un plan X qui avait été fait par le camp Bolsonaro. Ouais. Puis là, la question, c'est de savoir, bon, à quel point c'était sérieux? Est-ce qu'ils ont essayé de le mettre en place? Est-ce que juste d'y penser, ça constitue en soi un crime? Donc, on a accusé et reconnu coupable Bolsonaro d'une tentative de coup d'État, de tentative d'assassinat, de complot, etc. Et là, il se ramasse avec une condamnation de 27 ans. Puis la dimension qui est archi intéressante là-dedans, c'est qu'on avait vraiment là, deux icônes de la politique brésilienne. À gauche, Lula da Silva, qui est vraiment plus aligné avec la Russie, avec la Chine, etc. C'est un des initiateurs, en fait, des BRICS. C'est lui qui a lancé ouais. l'idée des BRICS initialement. Et de l'autre côté, sur la droite, t'as Bolsonaro, qui est comme une... Écoute, c'est le messie de la droite brésilienne. C'est un peu leur Trump. Ils sont par centaines de milliers à le voir comme une icône. Et donc, t'as ces deux idoles-là, ces deux camps-là, qui représentent plus largement aussi la société brésilienne. Fait que là, ben, ce qu'on voit en ce moment, c'est des manifestations monstres de gens pro-Bolsonaro qui demandent l'amnistie. Qui disent, écoutez, si vous êtes pour le reconnaître coupable, ben au moins, au nom de la nation, au nom de la démocratie, au nom de la cohésion nationale, il faut le pardonner, ou du moins lui donner une amnistie.
Parce que ça a été serré, aux États-Unis, hein, de mémoire, ça a été très serré, la victoire de Lula.
Ça a été serré, puis aussi le jugement en Cour suprême est un peu contesté. T'as trois des cinq juges là, qui ont voté pour le condamner, ouais. si je me souviens bien, qui sont des chums de Lula ou des proches de Lula. Fait que c'est difficile de regarder ça. Puis t'as un précédent là-dessus. Tu penses à Nixon, qui était parti pour une procédure criminelle aussi ouais. via le Watergate, puis qui a été pardonné exactement sous le même principe de penser la blessure, passer à autre chose pour éviter surtout une catastrophe nationale. Puis là, ce qui est en train de se passer en ce moment, et c'est ce qui est surtout en train de retenir l'attention, c'est que Trump suit cette histoire-là de très près. Il a commencé par dire au Brésil, là, je la trouve vraiment pas drôle, parce que Trump, dans sa tête, il lui est arrivé la même chose.
Trump dit,
c'est exactement le même procès qu'on m'a fait. On m'a accusé d'essayer de renverser les résultats de l'élection. C'est pas vrai, c'est inventé. Et il essaie de faire les parallèles avec Bolsonaro là-dessus. Et donc, depuis le début, Trump menace le Brésil sur la question du procès en disant « si vous déposez vraiment, si vous condamnez Bolsonaro, vous l'envoyez en prison, ben, il va y avoir des conséquences. » Et là, en ce moment, le Brésil, c'est le pays le plus tarifé au monde avec ouais. 50 % de tarifs, pas à cause d'une question commerciale, à cause du procès contre Bolsonaro.
À cause de ça.
Fait que là, t'as la relation avec les États-Unis en plus qui rentre là-dedans. Puis là-dessus, tu sais, je veux pas m'étirer, JC, là, mais je lance un ballon, là. Il y a un scénario qui est pas exclu dans lequel Bolsonaro pourrait être envoyé en exil aux États-Unis.
Ouais. Oh.
Où ça permet de sauver les meubles pour tout le monde. Bolsonaro n'a pas d'impunité. Il est quand même condamné. Il n'a pas le droit. Il n'est persona non grata au Brésil. Le Brésil permet de sauver à face pour son procès. On sort la menace politique Bolsonaro. Puis ça permet de lever les tarifs ben des oui. Américains. Parce que là, on est en deux très mauvaises postures.
C'est fou,
tu peux pas juste annuler le procès.
C'est fou, hein, politiquement, tout se négocie. C'est fou.
En veux-tu une bonne?
Oui.
En veux-tu une bonne, JC? On
oui.
finit là-dessus. Là. Cette semaine, une lettre ouverte dans le New York Times, écrite par nul autre que Lula da Silva, en anglais, pour s'adresser aux Américains et à Trump, et les titrer comment? « La démocratie brésilienne est non négociable
oh. ».
En voulant dire « Je sais ce que vous allez faire, on va essayer de négocier, on ne négocie pas ». Fait que vraiment, là, t'as tout un show en coulisses.
Hey, merci, Benjamin, toujours le fun.
Merci,
bye-bye. Salut, bonne semaine. Et je vous rappelle, Benjamin Tremblay de 7 jours sur Terre. Cherchez ça sur YouTube. 13h20, il faut faire une pause absolument.
Ouellette.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Radio X.